Matin Week-end,
Léna Aigue-Monnier.
Merci de vous réveiller avec nous, il est l'heure du journal permanent avec Clément Barguin, bonjour.
Bonjour, menaces terroristes, violences urbaines, conduites sous alcool ou stupéfiants, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans toute la France pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans une lettre adressée au préfet, Gérald Darmanin appelle à la plus grande vigilance. Les transports en commun seront particulièrement surveillés, notamment dans la capitale où des points de filtrage sont prévus. La France adopte à son tour des mesures aux frontières pour les passagers en provenance de Chine où l'épidémie de Covid-19 explose à nouveau. Passagers qui devront notamment présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif avant leur embarquement et porter un masque pendant leur vol. Ils pourront également être soumis à un nouveau test à leur arrivée en France. L'Ukraine indique avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs lancée par la Russie. Attaque qui est intervenue moins de 24 heures après les bombardements massifs contre des infrastructures énergétiques. Des millions d'Ukrainiens sans générateur se préparent à passer le nouvel an sans électricité, sans eau et chauffage et sous couvre-feu. Et puis c'est l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire. Cristiano Ronaldo s'est officiellement engagé avec Al Nassr en Arabie Saoudite. L'attaquant portugais, libre depuis son départ de Manchester United, a signé jusqu'en 2025. Il évoluera sous les ordres du français Rudy Garcia.
Merci Clément Barguin, 7h56 sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous.
Quelques heures avant 2023 et on va terminer l'année ensemble et pour l'occasion, tiens, on va partir à la montagne.
Que la montagne est belle.
Il se rêvait Jean Ferrat, il n'est que Christophe Bordet. Ah oui. Bonjour Christophe.
On fait ce qu'on peut.
Bonjour. La montagne est belle, oui, mais il y a beaucoup de courant d'air.
Oui, à l'époque de cette chanson de Jean Ferrat dans les années 60, on se préoccupait bien moins de l'isolation des chalets qu'aujourd'hui. D'abord, il faut le rappeler, le chalet fut un habitat paysan où l'on fabriquait le fromage avant de devenir le lieu de villégiature pour les touristes amoureux de la glisse. Fabriqué en sapin, c'est un habitat historiquement rustique. Et puis après-guerre, on a aussi beaucoup construit à la va-vite, on peut le dire, avec des conséquences que l'on paie un peu aujourd'hui.
Mais alors justement, Christophe, au moment où le prix de l'énergie explose, est-ce que ce sont des bâtiments énergivores, très énergivores même?
Absolument, absolument. Et pour bien comprendre, dans les stations de ski françaises, plus de 80% des logements sont des résidences secondaires et elles passent désormais à la moulinette du DPE.
Ah,
oui, le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, question... Combien de ces chalets ou appartements de montagne sont des passoires énergétiques classées F ou G ? Réponse avec Ludovic de Jouvencourt de chez Prélo, start-up spécialisée dans l'achat de résidences secondaires entre copains.
Environ 48% des logements en station de ski sont considérés comme des passoires thermiques. C'est aussi une opportunité de bien négocier son bien à l'acquisition pour ensuite avoir le budget pour bien faire les travaux et avoir un bien qui sort des standards de marché et qui reste très liquide, bien valorisé.
Alors Christophe, ces passoires énergétiques à la montagne, comment est-ce qu'on y remédie ?
Compliqué. Ah. Compliqué parce que les logements les plus mal classés ne sont plus louables dès demain, 1er janvier. Alors quand on possède un appartement en copro, il faut que tous les propriétaires soient d'accord pour les travaux et leur financement. Pour un chalet, on peut se dire c'est plus simple, encore faut-il avoir les sous. Mais attention, attention !
Quand on achète un bien immobilier à la montagne, il faut être bien conscient de ce qu'on va devoir y faire. Une rénovation de façade d'un chalet à la montagne, ça peut coûter très cher. Après, évidemment, il y a la façade extérieure qui est un paramètre important pour l'isolation. Il y a les fenêtres également et il y a l'isolation de la toiture. On estime aujourd'hui que 30% de l'isolation d'un bien passe par sa toiture.
Alors, sachez que si le parc de logements de montagne n'est pas rénové, la moitié pourrait être interdit à la location d'ici 2028. Mmh. Tiens, un exemple édifiant, Isola 2000, tout le monde connaît, dans les Alpes du Sud. Tenez-vous bien, 90% des bâtiments classés F ou G sont donc des passoires thermiques.
Alors, c'est évidemment colossal. Christophe, comment faire pour éviter ça?
Écoutez, d'abord, convaincre l'État qu'il faut peut-être laisser un peu plus de temps aux propriétaires pour s'adapter. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir de la casse, impossible de louer pour skier. Les prix des quelques logements qui sont dans les clous, eux, vont s'envoler. Et par ailleurs, les travaux nécessaires risquent de prendre beaucoup, beaucoup de temps, car à la montagne, eh bien oui, il y a encore moins de maçons ou de plaquistes que dans le reste du pays. Bref, le DPE sur le papier, c'est bien, mais dans les faits, grabuge garanti.
Merci beaucoup Christophe, on se voit l'année prochaine.
Eh oui!